Bonjour à tous, c'est Rose. Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un podcast qui m'a fait du bien à la tête et au corps. Adieu complexe de Malika Ménard nous plonge dans les pensées contradictoires de l'être humain qui voudrait cheminer vers l'acceptation mais qui se perd dans le doute, le jugement, le sabotage et la détestation de lui-même trop souvent. Malika reçoit des personnalités fortes qui, comme elle, ont réussi à sortir de ce mode de fonctionnement qui est la cause de la majorité de nos comportements destructeurs. On se juge, on se déteste, on s'anesthésie, on se punit, alors on culpabilise. Et c'est le retour au jugement. Ce cercle vicieux, on le connaît bien nous ici, dans Contradiction. Et Malika le décortique avec simplicité et intelligence avec ses invités.
Tu dis aussi que très tôt, tu as eu la sensation que parce que tu étais grosse, il fallait que tu développes d'autres qualités.
Ah oui. Bien sûr.
Être la plus intelligente, la plus drôle.
Bien sûr.
C'est réussi, hein. Je rigole bien. Depuis tout à l'heure, on peut dire que je rigole bien. Donc
J'adore. Ouais, clairement, bah, quand t'es grosse, tu sais faire mille trucs. J'ai fait de la natation à haut niveau, je sais faire du tennis, j'ai lu un nombre incalculable de livres, j'ai voyagé. En fait, quand t'es grosse, t'as intérêt à avoir un bagage comme as. Tu compenses.
Je vous laisse découvrir le tout premier épisode du podcast Adieu complexe de Malika Ménard.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Double monde, création.
Je ne me reconnaissais plus du tout. Et je me suis réveillée une matin, j'étais par terre. Déjà, je dormais par terre, comme un chien. Et je me suis dit, bon, ok, what are we gonna do?
Je suis Rose. Et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradictions, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction? Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquels nous raccrocher? Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles? Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues, de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Mon invité est né à La Havane, à Cuba. Elle a grandi à Miami, en Floride. Et a vécu à New York, au Costa Rica, à Paris, à Londres, à Amsterdam. Elle chante, joue de la guitare, de la basse, des percussions, mais surtout de son charme comme personne. Pourtant, elle est persuadée qu'elle a besoin d'un ou deux verres pour monter sur scène, de trois ou quatre pour en sortir et de quelques autres pour faire semblant d'exister encore et encore. On s'est connus la nuit, on s'est reconnus les jours d'après, la même envie de crever au ventre. Ensemble, on a chanté. Ensemble, on a dansé. Surtout elle. Elle danse mieux que personne, Lisette. On a poussé l'aube jusqu'au bord du précipice, jusqu'à ce qu'elle change de couleur et qu'elle prenne celle de l'enfer. On a promis, juré, que c'était la dernière fois. J'ai changé d'avis, mais pas elle. Après 8 ans de tournée chaotique avec le groupe Nouvelle Vague à travers le monde, elle décide de poser ses bagages en accalmie. L'amour s'invite dans sa sobriété. Un enfant qui grandit loin des gueules de bois, Lisette Alea brille de Miami au Nevada, performant au festival Burning Man à Jeun. Un exploit. Elle exprime sa gratitude, sa joie, sa paix. Dans les plus belles langues de la Terre, elle devient celle qu'elle n'aurait jamais osé devenir. Pourtant, régulièrement, le doute vampirise ses pensées. C'est ce qui fait d'elle un être humain, sincère, intègre, en perpétuel questionnement, quelqu'un qui nous ressemble. C'est un honneur pour moi de recevoir celle qui m'a transmis le message, comme on dit. Et ce message, nous espérons vous le transmettre aussi aujourd'hui. Bonjour Lisette Alea.
Bonjour. Quelle introduction, merci.
Je suis heureuse de te recevoir. En plus, c'est avec toi, je pense qu'on va lancer le Dry January.
Chaque 1er janvier, on a l'opportunité de recommencer le canvas, il est sans couleur.
Mais on a l'opportunité de recommencer chaque jour de toute façon, hein. De changer le cours de sa vie tous les jours.
Les gens, ils ont du mal à passer les fêtes complètes. Si c'est la première fois qu'on tente de faire ça, c'est peut-être difficile pendant les fêtes. Mais bon, si c'est... moi, je dis oui. Hein. Si les gens veulent essayer tout de suite, je dis oui. Parce que tu te prépares pour ce qui arrive.
Je suis d'accord aussi. Surtout quand on veut commencer l'année, c'est un peu mieux de la commencer le 1er janvier sans gueule de bois, peut-être.
Ouais.
Alors, Lisette... j'ai un peu raconté ton histoire dans l'introduction, mais on va y revenir. J'aimerais savoir d'abord comment tu définirais, toi, l'addiction avec tes mots.
L'addiction, pour moi, c'est un outil pour se mettre face à la réalité. Je n'arrivais pas à accepter la réalité telle comme elle était. Et j'étais accro à l'idée de pouvoir m'échapper. Donc, l'addiction, c'est être accro à l'échappe de soi-même, l'échappe de quelqu'un d'autre avec qui on est, l'échappe de ses propres fracas, ses propres son miroir, peut-être. C'est ça.
C'est un super pouvoir, en fait. C'est un super pouvoir de pouvoir s'échapper quand on en a envie, un peu. Au début, en tout cas.
Oui, sauf que le lendemain, on revient exactement là où on était.
Et encore pire.
Donc, l'échappe, c'est pour ça que c'est une addiction, parce que tu dois encore reprendre l'ascenseur pour sortir de ces bâtiments qui est toi-même. Et donc, tu n'arrives jamais à sortir de ces bâtiments, en fait. Il faut ouvrir la porte. Et pour ça, il n'a pas d'autre utile que la sobriété, en fait.
En fait, tu n'avais jamais essayé avant ce jour. Alors, c'était quel jour déjà que tu as décidé de poser le verre, comme on peut dire?
C'était le 16 août 2016.
OK. Et avant ça, est-ce que ça t'était déjà arrivé de décider d'arrêter, d'essayer, de savoir qu'il fallait arrêter de boire?
Oui, mais je pense que j'avais trouvé plein d'excuses pour justifier et valider mon alcoolisme. Déjà, je pensais que c'était le droit de musicien d'être bourré.
Le devoir.
En choisissant cette carrière, vu que tu as déjà sacrifié tellement de choses pour pouvoir être chanteuse, pour pouvoir vivre de la musique, c'est un tel sacrifice. Tu sacrifies famille, là où tu vis, ou là où tu as des amis d'enfance, tu sacrifies tout. Et tu dis, bon, au moins j'ai la gloire de me faire la fête, au moins j'ai ça. Et ça, c'était mon excuse depuis très longtemps. Surtout que j'étais quelqu'un de très, très discipliné quand j'étais jeune. Un peu coincé, quoi. Il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Et le jour où je suis arrivée à me voir dans de beaux hôtels, en tournée, et ça, je me dis, bon, c'est mérité. Et en fait, ça a déclenché l'enfer pendant très longtemps.
Moi, j'aimerais revenir sur ton enfance, justement, et la musique. Au moment où tu as senti que tu voulais faire ce métier-là, et la première fois aussi que tu as senti que l'addiction, elle pouvait s'inviter dans ta vie, que tu voyais que ton comportement n'était pas normal, entre guillemets, par rapport à une copine, par rapport à ta mère. Enfin, moi, c'était ma mère, par exemple, de voir, mais pourquoi elle se resserre pas qu'un soir, tu vois, ce genre de choses. Et tu vois les gens faire des choses un peu normales. Et toi, tu te dis, moi, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin.
Je pensais que c'était normal de... Bon, on va retourner à la première question. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé sur scène, un peu, au début des années 2000, sur scène. J'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est bien d'avoir un petit cognac. C'est bon pour la voix, ça chauffe les cordes vocales, c'est super. Donc, moi, j'avais le petit cognac. Sauf que le petit cognac, ça commençait à chauffer ma tête. Et je me sentis libérée de mes insécurités. Elles ont disparu. Et là, j'ai dit, oh là là, c'est merveilleux. Si je ne connaissais pas une chanson, je la jouais quand même. Si je ne connaissais pas les paroles, je disais n'importe quoi. Tout le monde était mort de rire et je croyais que c'était super. À la place de beaucoup plus répéter ou beaucoup plus être prête, j'étais beaucoup plus bourrée.
Mais les gens aiment.
Je croyais que c'était un peu normal, vu qu'on grandissait avec Jim Morrison, avec Janis Joplin. Bon, ça, c'est un peu des années 70, mais c'était quand même mes zéros. Mes zéros, ils étaient des zéros, parce qu'ils ils étaient complètement... Bah, ils sont partis à 27 ans, quoi. Donc, il ne faut pas oublier l'histoire de tous ces grands. Et bon, bref, après, je croyais que c'était normal de se prendre la tête avec l'équipe après le concert. Je croyais que c'était normal de perdre ses chaussures et avoir le tour manager qui cherche partout parce que tu as fait voler ton talon de l'autre côté de la scène. Je croyais que c'était normal de se prendre la tête à l'aéroport avec la sécurité parce que tu étais en mauvais état, tu ne voulais pas suivre les règles. Je croyais que c'était normal de vomir dans un avion. Je croyais que tout ça, c'était normal.
Enfin, que le rock'n'roll était normal, en fait.
C'est le rock'n'roll, ouais, c'est la débauche, quoi. La débauche. La débauche était mon droit.
Toi, t'avais quel âge, là ?
Là, j'avais entre... Ça a commencé à 22 ans.
T'as été sur scène très tôt dans ta vie ? Tu savais que c'était ça que tu voulais faire ?
J'ai toujours chanté. Depuis que j'étais toute petite, je faisais des trucs à la télé. J'étais grosse comme ça. Je chantais « Like a Virgin » avec un accent de latina pas possible. « Like a Virgin, touch for the very first time ». Mais j'ai toujours été sur scène. C'est pour ça que je dis que j'étais très disciplinée. J'avais un drive très fort, mais je ne me suis jamais permis de me lâcher ou de profiter de ce que j'avais construit en tant que chanteuse jusqu'à ce que j'avais 25 ans et j'ai commencé à me dire « c'est bon, je suis arrivée, je peux boire maintenant ». Là, tu perds 10 ans de ta vie et 10 ans de carrière, quelque part.
En fait, moi, quand je t'ai connue, pour moi, tu étais moins... C'est bizarre parce qu'on a toujours l'impression... Alors, il y en a qui disent l'inverse. Hein. Il y en a qui disent, j'ai toujours l'impression que les autres, c'est pire. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que les autres, c'était mieux. Donc, moi, je me disais toujours, moi, ça craint parce que je finis dans des états et le lendemain, j'ai envie de crever. Elle, elle fait la fête, elle danse et elle est heureuse. Et je suis sûre que le lendemain, ça va. Après, j'ai appris que ce n'était pas ça du tout.
C'est drôle que tu dis ça, Karen, parce que depuis longtemps, j'étais très jalouse de toi. Parce que... Je me suis dit, voilà quelqu'un qui est comme moi, mais qui s'amuse, qui ne se prend pas la tête avec les gens et que tout le monde l'adore. Et moi, je me voyais complètement l'opposé. Je croyais que j'étais une petite boule d'angoisse à côté de toi. Jusqu'à ce que je compris qu'on vivait la même chose.
C'était incroyable. Incroyable parce qu'on est des manipulatrices. Pour que les autres pensent qu'on est heureuse comme ça. Et que ça nous va, hein, parce que après moi j'ai appris par des amis communs que tu avais, c'est très rare hein, les gens qui ont vraiment envie de mourir le lendemain à chaque fois. Pas tout le monde est comme ça et nous on avait ce truc là. Est-ce que tu penses que c'est une chance ?
Moi c'est juste que le lendemain je me suis toujours rendu compte que j'étais très loin d'être la petite fille de ma grand-mère, que j'étais très loin de celle-là. Que je pensais qu'elle voyait de loin, elle est morte, mais qu'elle me voyait et je voyais son expression. Et je me disais, je ne peux pas être celle-là. Parce que quand on a une famille forte derrière nous, ils sont avec nous tout le temps. Mais c'est ma grand-mère qui m'a un peu sortie de ça, elle me parlait dans les rêves et tout, et je pense que c'est elle qui a chuchoté dans un rêve les deux lettres AA.
C'est pas vrai.
Ouais, parce que ma mère... je pense qu'elle n'aurait pas vraiment vu clairement ce qui s'est passé, mais ma grand-mère, elle aurait compris que je me suis perdue.
C'est vrai que c'est dur ça, c'est hyper dur de savoir qu'on a une famille derrière nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui consomment parce qu'ils sont seuls. Et on a peut-être cette chance-là justement d'avoir derrière nous des visages et une espèce d'inconscient au-dessus de nous qui nous sauve évidemment. Et pourquoi AA, justement, alcoolique anonyme et pas narcotique anonyme. Toi, vraiment, tu savais que c'était l'alcool le problème ?
Oui, c'est l'alcool qui était le déclencheur. C'est l'alcool qui me faisait perdre mes priorités. c'était l'alcool. Mais je voulais juste dire autre chose. Je suis née à Cuba et mes parents, ils ont traversé des obstacles très durs pour sortir de Cuba, pour me sortir de Cuba, pour me donner la liberté, pour avoir la chance de vivre de ce que j'aime. Et j'étais tout le temps en train de me dire, je vais les décevoir. Imagine si je crève ce soir. Ils ont fait tout ça, ils ont raté leur vie pour que moi je fasse. Mais c'est ça, je suis heureuse que j'ai cette culpabilité parce que c'est cette culpabilité qui m'a sauvée en fait.
La culpabilité, pendant un moment, elle peut faire consommer, au contraire. Au début, elle se nourrit d'elle-même un peu, je trouve. On se sent pas bien, on se sent comme une merde et on consomme. Ouais.
Au début, ça te donne envie de t'échapper. Et après, tu peux pas.
Il y a un moment, tu peux plus t'échapper. Mais c'est une chance d'être de ceux qui peuvent plus s'échapper à un moment. C'est une chance. Moi, ce que je trouve fou dans ton parcours, on va y revenir, c'est le fait d'avoir jamais rechuté. Tu peux nous raconter ta première fois. Donc, à quelle consommation déjà tu te situes pour décider d'arrêter? Est-ce que c'est vraiment la quantité? Ou c'est la culpabilité?
C'est la vision de moi-même. Je me reconnaissais plus du tout. Je me suis sentie très loin de moi-même. J'ai compris que j'avais pas beaucoup plus de chance d'avoir une vision comme ça, où je vois que je peux faire quelque chose. Et je me suis sentie abandonnée, comme si je m'avais abandonnée moi-même. Et que c'était ma dernière visite à moi-même. On me disait, tu viens avec moi cette fois ou pas? Et si c'était pas quoi, pour toujours. Et je me suis réveillée une matin avec cette sensation. J'étais par terre, déjà, je dormis par terre, comme un chien. Et je me suis dit, bon, est-ce que, ok, what are we gonna do? C'était juste... je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais,
dis-le en anglais,
on dit rock bottom.
Au pied du mur.
Rock bottom, c'est la pierre qui est au fond. Tu as touché la pierre qui est au fond.
Toucher le fond, ok.
Tu vas au fond de la mer et ouais, tu touches le fond. Quoi. Là, c'est bon. Je touche le fond. J'ai eu des moments beaucoup pires où je croyais vraiment que j'allais mourir. Mon cœur qui battait fort et je n'arrivais pas à retrouver ma respiration. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est comme si je ne le voyais pas. Un jour, je l'ai vu. Un beau jour à Nice. Je l'ai vu. Un beau jour Nice. À Nice.
Dans ma ville. Et j'étais là aussi. Enfin, j'étais pas loin, en tout cas.
Et tu étais là. On s'est vu quelques nuits avant, je pense. Je me rappelle. Oui. On s'est vu cette semaine. C'était vraiment clé dans ma fin et mon nouveau début.
Tu es à Nice, tu te réveilles par terre?
Ouais, je me réveille par terre et je me dis, je dois faire quelque chose. Je dois déjà trouver quelque chose pour survivre ce dimanche. Il faut survivre le dimanche avant tout, parce que il faut avoir, soit tu vas faire shopping, tu sais, le shopping compulsif qu'on fait le lendemain. Tu vas manger n'importe quoi, des glaces, des frites, des choses, avec une bière et ça recommence. Et bien évidemment, ça marche toujours aussi. Tu vas voir des amis, tu prends des coups avec des amis, ça marche toujours. Mais comme je t'ai dit, je pense que ma grand-mère m'a envoyé un message parce que je me suis dit, je vais voir s'il y a un AA à côté d'ici. Je vais voir, je vais googler. AA. Je me rappelle que j'arrivais même pas à ouvrir les yeux pour voir la petite barre de recherche de Google. Et je tape AA near me. Et là, je vois au hasard qu'il a un rendez-vous à midi. C'est juste dans une heure, je pense, dans la ville.
Une réunion,
pas loin, juste en bas de la colline. Et je décide d'y aller. Je prends mes lunettes les plus foncées que j'ai. Et je décide de descendre la colline en me disant, mais qu'est-ce que je vais avoir en commun avec ces gens? Qui sont ces gens? Ils vont être malodorants, ils vont être des pervers, ils vont être des fous, des cinglés. J'ai rien en commun avec ces gens, des abandonnés de la société. Mais j'avais un jugement un tel jugement que quand j'y pense maintenant, j'ai envie de dire pardon à tous les AA du monde parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais je suis allée comme quelqu'un qui va à l'église pour faire un deuil. Je voulais aller quelque part pour faire un deuil. Et ben, je descends la colline et là, le GPS me dit « Bon, vous êtes arrivés. » Et là, je vois le truc, c'est une petite sous-sol. Et je dis « Bon, je me donne 15 minutes. » Au bout de 15 minutes, je pars. Voilà, parce que je me dis toujours que c'est plus facile d'y aller, de partir, que de ne pas y aller du tout. Donc, je me suis donné 15 minutes. Je entre par la porte et je vois qu'il y a des gens qui déplient des petites chaises. Il a un ventilateur dans le coin qui envole le café, l'odeur à café. C'était magnifique. Je pense que l'odeur à café, c'est le truc qui m'a vraiment... Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi avec ses bras comme ça. Ses bras comme ça. Et il me dit... En fait, il est habillé un peu normal. Short, t-shirt, tongs. Et il me dit avec un accent britannique, il me dit « Are you new ?» Est-ce que tu es nouvelle ici ? Et là, je dis, ouf, bon, j'enlève pas les lunettes parce que j'arrête pas de pleurer. Et il me dit, sit down and don't say anything. Et il m'assoit à côté. Et là, je me rends compte que c'est Elton John. Et il avait ses lunettes parce que je me suis dit, bah, il ressemble énormément. Mais des fois, ça arrive. Les gens s'étendent les cheveux roux, ils se mettent des petites lunettes, ça peut arriver. Tout le monde peut être un peu Elton John avec le bon look. Mais là, je me rends compte que c'est vraiment lui, quoi. Et là, je ne peux vraiment pas enlever les lunettes parce que les larmes, ça tombe comme ça. Mais c'est Niagara Falls parce que je me suis rendu compte que Dieu m'a parlé de la seule façon dont je pouvais écouter. Avec
la musique.
La musique. Avec quelqu'un que surtout lui qui représentait mes pires moments, parce que quand j'étais bloquée dans un moment difficile, je mettais toujours « Someone save my life tonight ».
Wow.
Sa chanson « Quelqu'un sauve ma vie ce soir ».« Someone save my life tonight ». Et c'était un peu ma prière. « Quelqu'un sauve moi ». Et bon, après le rendez-vous, le meeting... La réunion, il me tenait par la main. Et après, il voulait m'offrir un livre, parce qu'il faut un livre, c'est tout un système. Ah non, mais attends, il a autre chose, c'est qu'il racontait des choses, je ne veux pas dire ce qu'il racontait. Et la seule raison que je parle de lui, c'est parce qu'il a fait un film qui parle de ça. Donc, je me permets, il avait d'autres gens dans ces rendez-vous qui sont très connus aussi, que je ne dirais pas qui c'était, mais apparemment, c'est un meeting de musiciens, d'expatriés, musiciens incroyables. C'est incroyable. Et bon, Elton, il voulait m'offrir un livre, mais il n'avait pas d'argent. Donc, il a demandé de l'argent autour de lui et il m'a offert le livre de Alcoolique Anonyme avec sa petite signature.
Eh ben voilà, on a la preuve. Vous l'avez pas, vous, auditeur. On va faire la photo, vas-y, donne-nous ça. Bon, en même temps, tu me l'as envoyé la photo, je l'aurai, mais regarde ça. Regarde ça, Marjorie. To Lisset. Il y a marqué quoi après ? Much love to you.
He says, much love, keep coming back.
Ça veut dire, reviens. Ça marche.
Reviens. Ça marche. Et il me l'a dit aussi. Il m'a dit, we want to see you here next week. On va te voir ici la semaine prochaine. Et je me suis dit, pas de problème. Parce que moi, je peux décevoir ma famille, je peux décevoir mon mec, je peux décevoir tout le monde. Mais je ne peux pas décevoir Elton John. ça ne marche pas.
Mais en plus, toi, tu devais rentrer à Paris. Donc, ça a dû être horrible de te dire que tu as commencé ces réunions avec eux. Et parce que moi, quand j'ai commencé, en tout cas, j'avais envie de garder ma réunion la même. J'avais découvert des gens. Moi, j'ai commencé en Zoom. Bon, ça, on y reviendra plus tard parce que moi, j'ai découvert grâce à ce que tu m'as raconté 3 ans plus tard. Même si j'ai suivi ton chemin l'année d'après parce que ça m'inspirait beaucoup, mais je ne savais pas que c'était ça qui t'avait aidé. Mais comment tu es rentrée à Paris et là, tu as continué ?
Bah, déjà, j'ai fait le prochain dimanche. J'étais encore à Nice, donc j'ai réussi à faire deux dimanches. Donc, j'ai réussi à vivre une semaine où je pouvais faire les choses comme les autres sans boire. Et tu sais ce que ça veut dire. J'étais entourée par des gens qui buvaient et tout. Et j'arrivais à boire mon petit Coca-Cola parce que je
ne pouvais
pas
décevoir
Elton John.
Mais je te voyais faire. Et je me disais, déjà pour moi, tu sais, il y a un moment où ce n'est pas possible d'envisager de sortir dans des bars sans boire. C'est impossible. Et ça a été comme ça toute ma vie. Et, et de te voir, toi, ne pas boire... Ça m'a vraiment fait quelque chose à ce moment-là. C'était l'été, on est dehors et tout le monde buvait. Tout le monde buvait. Incroyable. Et donc là, tu arrives à tenir tes deux semaines et c'est épatant déjà.
Oui, ça marchait. Je suis rentrée à Paris et tout de suite, j'ai trouvé un nouveau groupe qui est dans l'église américaine. Et voilà, je suis devenue accro aux histoires des autres. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus curatif que écouter les histoires des autres, ce que les gens ont perdu, les distances qu'ils ont fait. Il y avait des gens qui étaient en prison, qui avaient tout perdu, qui revenaient de tout ça avec un sourire en t'offrant un café. C'est incroyable. Tout le monde a été pardonné. Ils se sont pardonnés et ils sont revenus à la vie. Et en écoutant leurs histoires, tu prends beaucoup de force. Donc, c'est très bien, le podcast, parce que ça amène les histoires dans les oreilles des gens. Oui. Mais on ne peut pas toujours aller au meeting, je comprends. Donc, c'est bien de faire drive-through au meeting, quoi, comme ça.
Non, le témoignage, en fait, c'est une arme, vraiment. Moi, je sais qu'en tout cas, les gens qui m'écrivent, ils me disent qu'ils arrêtent, qu'ils essayent. En tout cas, ça te donne la foi. Et surtout, on a la preuve que ça peut fonctionner. Par exemple, quelqu'un qui va t'écouter va se dire... Tiens, je vais aller à une réunion. Il va chercher la petite Colline à Nice, peut-être, mais il va chercher Elton. Mais vous êtes resté en contact ou pas du tout?
Non, j'ai pas demandé. J'ai pas, non, pas du tout. Je l'ai vu dans un autre rendez-vous, mais tu sais, ça reste un être humain qui a un problème comme tous les autres êtres humains, en fait. Il a les mêmes problèmes quand il rentre dans sa chambre d'hôtel que tout le monde après un concert, tout le monde qui fait des concerts. On dévalorise le minibar, on pleure dans la baignoire, on se couche à n'importe
quoi. On dévalise. On dévalise, pas dévalorise.
Aussi.
On dévalorise plutôt sa personne en dévalisant le minibar.
Bon, voilà, je réfléchis le français dans ton podcast.
Non, mais le côté clown triste qu'on voit dans les spectacles, dans les films, c'est vrai que c'est vraiment ça. On n'imagine pas quelqu'un, après un concert, rentrer chez soi et se faire un plateau repas et manger 3 tonnes ou boire tout seul ou pleurer. On imagine toujours que les gens sont heureux parce qu'ils ont été sur scène et qu'ils ont rendu heureux d'autres gens.
Mais surtout que j'ai compris que si jamais j'avais... le malheur d'avoir beaucoup plus de succès dans l'état où j'étais, ça n'allait pas se passer mieux. Donc, si j'avais des ambitions de continuer dans la musique, il fallait tout de suite que je me sorte de ça, quoi. Il fallait que je m'entoure de gens sobres, que je m'entoure de musiciens sobres.
Alors, c'est ce que tu as fait ?
Oui, moi déjà, c'est commencé très vite. J'ai quitté le groupe, j'ai quitté 75% de mon entourage a disparu overnight. Overnight, c'était la folie. J'ai beaucoup souffert, j'ai fait des thérapies et tout, parce que se rendre compte que beaucoup de gens que tu croyais qui étaient des vrais amis ne le sont pas, c'est une grande déception et c'est magnifique aussi.
En fait, c'est pas des ennemis, mais c'est des gens avec qui tu partages que la fête.
C'est pas des ennemis du tout, je dis pas ça, et c'est des gens où je souhaite le mieux et tout, mais c'est pas du tout les gens qui vont être à ton côté le jour où tu vas être malade.
Qui vont t'aider aussi à ne pas boire, c'est pas eux.
Ou aussi des gens qui arrêtaient de m'inviter chez eux ou au dîner parce qu'ils disaient mais tu bois pas.
Ah, t'as eu ça?
Mais tu bois pas, on sait pas comment faire, tu sais. Et là tu te dis, ah bon, d'accord, c'est pas grave, c'est pas leur faute. C'est surtout en France, c'est pas évident d'être celle qui ne boit pas du vin, tu sais, mais c'est pas leur faute. Maintenant c'est bon, c'est digéré. Mais à cette époque, c'était très difficile de me retrouver assez seule. Donc, je faisais des fois 2 meetings par jour. Je me suis fait plein d'amis dans AA, plein de gens que j'adore, que j'appelle toujours, qui sont en Grèce, en Angleterre, partout. Et là, j'ai arrêté d'avoir peur d'être vulnérable. Pendant très longtemps, je disais rien, je ne voulais pas parler. J'écoutais, je pleurais, je partais, quoi. Mais ça m'a pris beaucoup de temps à me sentir nue devant ces gens, Ils avaient tous l'air très... C'était très facile pour eux. Des fois, il y avait des gens qui avaient du mal, mais je faisais partie des gens qui avaient du mal à parler.
Je suis étonnée. Je pensais... Moi, j'ai parlé tout de suite. Je pensais que tu faisais partie de celles qui allaient parler tout de suite.
Non, je pense que ma fierté m'a empêchée d'accepter ce que j'étais en train de... Je me rendais compte des choses et c'était très dur pour mon ego et ma fierté.
En fait, on se rend compte qu'on est pareil que certaines personnes qui ont l'air parfois vulnérables. Et il y a un moment comme ça où on se rend compte que la personne qui est en train de parler, c'est nous, quoi.
Oui, et que l'enfant en nous a peur aussi. L'enfant en nous a peur de... Parce que là, tu as enlevé tous ces outils de pour jouer au cache-cache, quoi. Là, tu es toi-même, Lisette, telle comme la fille de ma famille, quoi.
C'est les paillettes aussi qu'on enlève, hein, quand on arrive.
On enlève les paillettes, il a la paranoïa qui sort, il a les insécurités, il a les...
On n'est jamais assez bien.
Les gens peuvent voir que tu manques un peu d'amour propre, tout ça, ça fait chier. T'as pas envie de montrer tout ça, c'est pour ça que j'ai bu.
C'est pour ça que tout le monde boit et a des addictions. Je pense que pas que l'alcool, mais je crois qu'on a beaucoup envie d'être quelqu'un d'autre. Beaucoup. Et surtout, de ne pas montrer, de pas être... On n'est pas très honnête. Moi, je continue à penser que je n'arrive pas à savoir qui je suis. Il y a des moments, je crois que oui. Et puis, soudainement, je me dis, mais t'es totalement malhonnête. Surtout envers toi-même. Hein. Tu te dis, mais je dis des choses, je prône des choses, je fais ce podcast, et puis des fois je me rends compte, je pleure toute seule à me dire mais qui tu es, quoi? Est-ce que t'étais pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux quand tu bois? Est-ce que c'est pas mieux? On a des questionnements encore.
Là, je suis là-dedans. Récemment, je suis là-dedans. C'est incroyable, mais ça fait quoi? Ça fait 5 ans que je suis sobre. Ça va être 6 cette année. Et récemment, je recommençais à me dire que ce que j'étais pas mieux, est-ce que j'étais pas plus drôle. C'est fou que ça a pris si longtemps. Mais c'est aussi parce que j'ai un enfant de 3 ans, que c'est difficile, que c'est pas toujours le plaisir. Avant, c'était beaucoup de plaisir. La vie était un plaisir après l'autre, tu sais. Et là, il a la réalité. Tu es maman, tu dois faire des choses que t'as pas envie de faire. Et... tu fais plein de choses que tu ne savais pas que tu allais faire qui sont merveilleuses. Mais c'est bien équilibré quand même par les choses que tu n'as plus le choix. Tu veux sortir avec tes amis, bah, tu ne peux pas, ton enfant est malade. Et tout ça, ça me dit, mais tu sais, il a des parents qui m'écrivent, qui me disent, si vous voulez, après que les enfants se couchent, les voisins, vous pouvez passer et on peut boire un petit verre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais bien, quoi? Qu'est-ce que j'aimerais bien? Mais je n'ai pas envie que mon enfant me voie comme ça, jamais. J'ai du mal à me contrôler des fois. Je suis toujours impulsive, je suis toujours dramatique. Donc
tu continues les réunions?
Oui, je continue les réunions sur Zoom, mais je préfère en personne. Et ce n'est pas très facile
présentiel.
De faire.
Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, je vois ce que tu veux dire, mais c'est le cerveau des addicts qui est malade et qui veut toujours faire croire qu'on n'est plus malade. Mais par contre, il y a un truc que j'ai appris, moi, dans ce podcast, vraiment, c'est le truc qui revient le plus souvent. Et je me suis dit, s'il y a une seule chose que je devais retenir, c'est qu'en fait, on est, tous les êtres humains, on est addicts, tous, à une seule chose, c'est à la dopamine. Donc, c'est la seule addiction.
Complètement. Voilà. C'est drôle, je l'avais noté, dopamine, comme un mot très important.
Tu vois, en fait, on est addicts à ça. Et quand tu parles de ta vie de maman et tout ça, parce qu'on a des responsabilités, on a des choses qui... Quand tu l'as dit, ne procure plus de plaisir, ça veut dire que ça ne déclenche pas de la dopamine. Et en fait, moins tu déclenches de la dopamine dans tes actions, plus tu vas devoir aller la chercher ailleurs. Et c'est vrai que plus on a une vie sérieuse et plus on est rangé et plus on fait les choses bien, plus des fois on est en manque de ça. Voilà.
Ouais, j'ai recommencé à courir, ça aide.
Voilà.
Ça aide énormément. Mais il faut que je cours vite et des fois en criant. Non, mais c'est vrai, les gens, ils doivent penser que j'ai un problème parce que des fois, je cours, je vais...
Non, mais bravo surtout de ne pas boire. C'est fou parce qu'on l'a tous fait, même en cachette. Il y a toujours un moment où tu dis, attends, je vais voir quand même. Enfin, moi, j'y suis retournée plusieurs fois, on le sait. Et à chaque fois, c'est quand même un fracas, quoi. Je me dis, Même quand ça fonctionne, dire, même si 8 fois sur 10, tu peux boire ton petit verre, la 9e fois, eh ben, ça finit très très mal et ça ne vaut pas le coup. Quoi. Et bon, je le répète beaucoup parce que, en fait, je me le répète à moi, hein, je le répète beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai encore la certitude que ce n'est pas pour moi, que pour moi, alcool, c'est pour la personne que je suis. C'est le mal, c'est le diable, c'est quelque chose qui va me pousser à être quelque chose que je ne veux pas. Et pourtant, j'aimerais pouvoir boire un verre de vin. J'adore, j'aime le vin.
Oui, mais c'est, l'alcool aussi, ça me pousse à détruire. Ça m'amuse, comme un enfant qui construit un truc en Legos et puis qui fait... Ouais. Et ça m'a beaucoup amusée pendant longtemps de voir comment les choses se détruisaient, défaire les choses. Et maintenant, je suis accro à voir comment petit à petit tu peux... construire. Et ça veut dire que c'est pas des pas énormes, glorieux, c'est des tout petits pas que tu prends tous les jours, de tout petites choses, en disant non à ça, en disant oui à ça, en disant je me couche à 22 heures avec un livre. C'est génial, parce que petit à petit, tu construis quelque chose. Et en fait, on oublie quand on est alcoolique qu'on a le pouvoir de défaire l'enfer qu'on a construit nous-mêmes. On a ce pouvoir.
On a aussi malheureusement le pouvoir de tout détruire en une fraction de seconde. Ça veut dire que si on remet la machine en route, toi, tu peux dire qu'aujourd'hui, en effet, c'est des tout petits pas. Mais quand moi, je regarde ce que tu es devenu et les tout petits pas pendant 6 ans, moi, je vois un énorme pas. Tu es à Miami, tu as un enfant. Tu es mariée, non ?
Oui, je suis mariée.
Merveilleux.
Et mariée avec quelqu'un qui a arrêté de boire aussi. J'ai arrêté avant, d'abord. Et lui, ça lui a pris, je pense, un an après parce que... on s'est trouvé une fois dans un mariage de ma meilleure amie et j'étais la maid of honor, tu vois, la femme qui a, comment s'appelle ça en français,
la demoiselle d'honneur.
Et j'étais très heureuse d'être là, sobre, d'accompagner ma copine dans un mariage et mon copain à l'époque, il buvait toujours. Il venait d'arriver de France, c'était en Floride et il était un peu... Avec le décalage horaire, il faisait des shots de vodka, il était bien, il était content. Mais à un moment donné, il commence à se prendre la tête avec quelqu'un qui lui dit un truc de travers. Et là, j'ai vu ce qui allait se passer et je le prends et je le mets dans la voiture et on se casse et j'ai raté le mariage. Et j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Et lui, le lendemain, il a arrêté de boire. Il n'a plus jamais touché l'alcool.
Mais tu lui as montré ce qu'il avait fait ou il s'en rappelait ?
Il se rappelait et il m'a dit « Je ne veux plus jamais de la vie, je vais te faire souffrir comme ça. C'est pas possible que je te fasse souffrir parce que j'ai bu des shots de vodka et plus jamais touché l'alcool. » Et j'ai dit « Non, mais ça va, si tu veux boire, ça va. Tu n'as pas besoin de rien faire. » Et il a dit « Non, mais non. »
Et aussi, peut-être qu'il voyait aussi ce que ça faisait sur toi, parce que d'avoir un attrait comme ça, de voir quelqu'un devenir meilleur, être en meilleure forme, être heureuse, sûrement que ça a dû aussi le motiver. Quoi.
Non, mais c'est surtout que si nous, on a décidé d'aller vers le même chemin ensemble, on ne peut pas commencer à porter l'un ou l'autre sur le dos si ce n'est pas absolument nécessaire. Si quelqu'un est malade, il faut le porter. Mais si quelqu'un a juste envie de boire parce qu'ils se font chier au coin d'un mariage, je ne devrais pas le porter. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut protéger le mariage. Pas celle de ma copine, mais celui de...
Le vôtre.
Il faut protéger ses relations avec ses amis, qui sont avec sa famille. C'est des choses qui peuvent disparaître comme ça, surtout... Si on le laisse.
Et qu'est-ce qui te fait tenir aujourd'hui, par exemple, les contre-addictions, moi j'appelle ça. Toi, tu cours en criant, moi je fais du yoga, moi je pars marcher 2 heures, parce que parfois ça a une envie de boire, mais parfois c'est une envie de manger un paquet de bonbons entiers, parfois c'est une envie de regarder 3, 4 épisodes, 5 d'une série. Enfin voilà, on a ces trucs-là de s'échapper. Et... Qu'est-ce qui te fait tenir ? Qu'est-ce qui fait aussi ? Qu'est-ce que c'est le plus beau cadeau que tu as gagné dans ce clean et qui te dit « je ne peux pas perdre ça » ?
Je me suis un peu échappée du tyran qui vit dans ma tête. Qui me dit tout le temps « ça ne va pas, ce que tu as dit là, ce n'était pas bien. » C'était constant dans ma tête. Et je me suis échappée de ça, je me suis échappée du passé. J'ai arrêté de penser au passé, de tout ce que j'avais fait, de tout ce que je n'avais pas fait, de comment, qu'est-ce qui m'a fait ça. J'ai pardonné, en fait. Le pardon, c'est le cadeau le plus grand de la vie, si tu arrives à le faire. Mais,
Je suis d'accord. Mais le pardon de soi aussi.
Et après, j'ai acheté un jet ski. Et le jet ski, c'est mon plus grand cadeau de la vie. On part un jet ski, on regarde les dauphins, on s'échappe. On fait des déjeuners dans des petites îles. C'est la mer. La mer et le pardon.
Moi, je veux savoir comment un couple passe du bon temps en vacances sans boire. C'est important pour tout le monde. Là, surtout, tout le monde va partir en vacances, moi y compris. Qu'est-ce qu'on fait ?
On observe le monde ensemble. On observe le fait que nous, on voit un peu les choses pareil. On voit les moindres petits détails. T'as vu la vieille dame derrière qui était là ? On voit les petites choses. Et ça, c'est une espèce de cadeau.
Complicité.
D'avoir quelqu'un avec qui tu peux vraiment partager et voir le monde. Ça, ça suffit.
Et pas s'échapper.
Parce que ça, c'est rare. Donc, ça suffit.
Le Dry January aux États-Unis, il est c'est un mouvement important. Il y a beaucoup de gens qui le font.
En fait, il a deux mouvements. Il a aussi Sober October. Je connais plein de gens qui font Sober October pour se préparer pour le November-December, qui est toujours de temps de débauche par excellence. Mais Dry January, oui, je connais des gens qui le font et ouais, c'est génial, surtout dans la musique électronique. Je chante beaucoup dans la musique électronique et c'est un peu la saison off. Et donc, tous les DJ et tous les gens qui sont dans ce monde, qui ont fait tous les fêtes jusqu'au 31, tous ces fêtes qui sont en famille pour les musiciens électroniques, c'est les clubs, c'est les fêtes. Et donc, en janvier, c'est la communauté de musique électronique est sobre.
Et toi qui as réussi, quand on arrête un mois, c'est déjà un bon pas engagé. C'est vraiment, je trouve que c'est un bon sevrage, un mois.
Bah, déjà, en deux semaines, on voit une différence dans la peau, dans la plein de choses. Mais c'est incroyable. Tu perds du poids, tu payes moins d'impôts.
Ah oui, bien sûr. Tu fumes, toi ?
Non, je ne fume plus du tout. Des fois, je fume un cigare. J'aime bien les cigares cubains. Mais ça, c'est quand j'ai le temps de m'asseoir en une heure et vraiment profiter de quelque chose.
Tu es très active.
Oui, je suis très active. Je cherche des activités tout le temps avec le bébé. Je cherche des choses. Mais on vit à Miami. On a beaucoup de soleil. On a beaucoup de... On peut dehors, beaucoup.
Beaucoup de chance.
On peut être à la plage toute l'année. Ouais. Donc, j'ai moins de culture quelque part, mais j'ai aussi beaucoup plus de santé et de luminosité.
Qualité de vie. Bon, en tout cas, moi, je te vois en Zoom. Je te vois en visio, malheureusement. J'espère qu'on se voit très vite en vrai. Je voulais te dire merci d'abord de m'avoir donné l'exemple et le chemin, même si je suis loin de suivre le modèle que tu es. Mais en tout cas, je garde Lissette en ligne de mire et j'en parle tout le temps. J'en parle même le livre qui va sortir le 25 janvier. Je parle à cette personne-là qui m'a transmis le message. Les gens iront se renseigner sur les AA, les AA, ou ce qu'ils veulent, en Zoom ou pas en Zoom, en présentiel. Mais il faut savoir que c'est au-delà des réunions, c'est un programme. On en a beaucoup parlé dans ce podcast. Et je suis contente que tu aies voulu en parler parce qu'il y a ce côté anonyme. Alors, on a le droit, on n'a pas le droit. Moi, je pense qu'il faut transmettre ce message et que les gens doivent savoir que c'est une méthode qui marche. Voilà. Et je te remercie.
Oui, bien sûr. Et quand tu vois pour la première fois ta petite pièce de
ouais,
24 heures.
24 heures.
Tu le fais 24 heures par 24 heures. C'est génial.
C'est la seule chose qui marche. Moi, c'est vrai que souvent, je me suis dit, bon, ben, je boirai demain, aujourd'hui, non. Allez, je boirai demain, aujourd'hui, non. Et comme ça, 24 heures, 24 heures, tu arrives à 3 mois, 4 mois. C'est merveilleux. Je suis trop heureuse de t'avoir reçue. Et j'espère qu'on se verra à Paris bientôt pour faire de la musique sobrement.
Ben oui, pour faire un thé. On va se faire un thé.
Ouais. Donc, Happy Dry January.
Happy Dry January and bon 2024.
Bon 2024.
C'est une nouvelle opportunité pour se ressaisir.
Exactement. Merci beaucoup, Lissette.
Au revoir, Karen. Bye.
Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant,
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose, de Double Monde et de Contradictions.